Bonjour à tous, bonjour Estelle.
Bonjour Mathieu.
Bienvenue dans l'écho locale, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Couleur FM. En direct de la radio et comme chaque jeudi à midi, et également en rediffusion le vendredi à 19h, le samedi à 7h et les dimanches à midi, vous allez savoir ce qu'il se passe au cœur de votre territoire berjalien.
Une heure d'information, d'agenda, d'actu, de vie associative et culturelle, de musique et de chronique et d'invités.
Aujourd'hui, jeudi 10 novembre, pour ce cinquième opus d'Écho Local, en direct de Couleur FM, le menu radiophonique sera consacré à notre territoire. Au menu du jour, les dames seront majoritaires dans l'émission, et qu'est-ce que ça fait du bien d'inverser la tendance ? Gérante d'entreprise, actrice et comédienne à l'honneur.
Littérature et aussi cinéma, avec la chronique de Véronique Boulieu. Mathieu a l'honneur d'avoir en interview Rachel Kahn, écrivain et actrice. Elle nous parlera de son premier roman, Les Grandes et les Petites Choses, ainsi que son rôle dans le film L'Invitation, sorti hier avec en rôle principal Nicolas Bedos et Michael Cohen.
Sans oublier nos petits reporters des écoles du territoire. Période d'Halloween oblige, ils sont allés rencontrer Nicolas Vora qui exerce le curieux métier de chasseur de fantômes.
Et pour le dessert, on s'envolera entre l'Afrique centrale et Cuba avec Mathieu qui fera un focus sur le nouvel album du bassiste camerounais Richard Bonnat.
Cette semaine, le portrait de l'écho local est consacré à Iliam El-Youssefi. Ancienne gendarme et maintenant responsable et chef d'entreprise de la société Eli Sécurité à Bourgoin-Jallieu, elle évoque son parcours et sa vision de son métier majoritairement masculin. On la retrouve au micro de Estelle Gély.
Bonjour Iliam El-Youssefi, vous avez 38 ans, vous êtes créatrice d'Eli Sécurité, une société de sécurité basée à Bourgoin-Jallieu.
Oui, bonjour.
Alors, comment est venu votre désir de devenir chef d'entreprise ?
Alors, ce désir, je l'ai toujours eu depuis que je suis toute petite. C'était un désir que j'avais au fond de moi. La vie a fait que finalement, je suis devenue gendarme, mais ce désir est revenu fin 2010, au bout de 11 ans de gendarmerie, donc à l'occasion d'une reconversion.
Est-ce qu'il a été facile pour vous ou difficile de se lancer dans cette aventure où seulement 30% des femmes sont des créateurs d'entreprises ?
Psychologiquement, non. Ça n'a pas été difficile pour moi. Techniquement, oui, parce que j'y connaissais absolument rien. Donc, je suis passée de gendarme à chef d'entreprise. Mais comme c'était un souhait, comme c'était une envie, pour moi, ça a été naturel. Donc, je me suis lancée, mais avec enthousiasme, avec plaisir. Après, bon, c'est une autre vie, c'est différent.
On revient sur votre ancien parcours de gendarme. Vous étiez gendarme jusqu'à fin 2010. Quel a été le déclic pour passer de ce statut de fonctionnaire à celui d'entrepreneur qui est un peu plus risqué ?
Le déclic, au bout d'un an de gendarmerie, j'avais envie de me reconvertir tout simplement. Puis cette idée-là m'est revenue et ça a été aussi une opportunité à un moment donné, la gendarmerie pouvait m'offrir la reconversion. Donc c'était le moment où je pouvais quitter la gendarmerie et puis me lancer. Psychologiquement aussi, encore une fois. Pour moi, je fonctionne par déclic, puis par envie aussi. Donc, de fin 2010, je me suis dit, c'est le moment, il faut que je change.
Comment a réagi justement votre entourage ? Est-ce qu'ils vous ont plutôt poussé vers cette aventure ou au contraire, ils ont dit, faites attention, il y a un risque ?
Oula, alors mon entourage, ils ont été quand même assez surpris parce que, la vie de gendarme, j'avais une vie quand même relativement confortable avec une bonne rémunération. Un logement de fonction, j'avais la vie devant moi, un déroulement de carrière. Et puis non, pour certains ont été surpris, pour certains ont été choqués même. Et même mon entourage en gendarmerie m'ont dit « Ouh là là, mais attention, faites attention à ce que vous faites, réfléchissez bien ». Donc, mais malgré tout ça, je savais ce que je voulais, c'était le plus important.
Alors justement, vous travaillez dans un secteur masculin avec des salariés hommes. Est-ce qu'ils sont surpris justement, par exemple, lors de leur entretien quand ils découvrent une femme à la tête d'une société de sécurité?
Oui, ils sont surpris. Ils sont surpris parce que généralement, au début, je faisais les entretiens moi-même et c'est vrai qu'ils s'attendaient à avoir un homme, pour la plupart. Et puis, ils me prenaient, moi, pour la secrétaire. pour eux, j'étais pas l'employeur. J'étais juste là pour seconder l'employeur et puis, pour récupérer les CV. Non, mais... Et je dirais ça des agents, je dirais ça des clients aussi. Ils sont très surpris.
Justement, pour venir aussi sur votre parcours, comment s'est passé votre parcours, donc de votre idée à la réalisation de ce projet ? Est-ce que vous êtes passé par une pépinière d'entreprise, par la CCI, chambre de commerce ? Comment s'est déroulé ce parcours ?
Alors, justement, moi, je suis complètement autodidacte. Je ne suis passée par rien du tout. Je sais que 6 mois avant de quitter la gendarmerie, je me suis préparée, je me suis renseignée par moi-même sur la création d'entreprise, sur le métier de chef d'entreprise, sur le gardiennage, sécurité privée. J'ai fait par curiosité, tout simplement. Je me suis informée, renseignée, et puis je me suis lancée.
Est-ce que, avant de vous lancer, vous avez côtoyé d'autres chefs d'entreprise qui vous ont conseillé, justement, même si vous êtes autodidacte?
Absolument pas, non plus. Parce que moi, j'ai un associé aussi, on s'est lancé à deux. Mais non, je savais même pas ce que c'était qu'une entreprise. Je connaissais absolument pas le monde de l'entreprise. Je me suis lancée, mais dans l'inconnu total.
Aujourd'hui, je pense que vous ne regrettez pas cette aventure.
Absolument pas non plus. Non, je regrette pas. Je regrette pas parce que pour moi aujourd'hui, j'ai bien fait puisque ça fonctionne. Voilà, c'est ce que j'avais envie de faire. Quand on a envie de créer une entreprise, et surtout qu'on connaît par cœur le domaine dans lequel on va créer, après j'irai, c'est plus facile. C'est plus facile, surtout quand on sait ce qu'on va faire et qu'on connaît son métier.
Quelle est la situation aujourd'hui de votre entreprise 5 ans après la création? Quels sont vos projets? Est-ce que vous recrutez? Est-ce que vous avez beaucoup de clients?
Alors aujourd'hui, on recrute régulièrement. On a à peu près une vingtaine de salariés dans l'entreprise. On a des clients qui sont dispatchés sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes, puisqu'on agit sur la région. Donc du coup, on a des clients qui viennent de partout, hein, que ça peut être des clients publics, des clients privés, des particuliers, donc des magasins, des chantiers, des parkings, enfin c'est très divers.
Est-ce qu'il y a d'ailleurs eu une hausse suite aux événements que a pu connaître la France ces derniers mois?
Alors on le ressent. La semaine qui a suivi les derniers attentats, oui, ça, on a eu des demandes, ça a explosé. Puis ensuite ça s'est calmé et maintenant c'est vrai qu'on a des demandes quand même qui sont particulières. On a des demandes d'agents sur des lieux qui, avant les attentats, on ne demandait pas d'agents, par exemple des mariages, des fêtes agricoles, des associations qui mettaient pas des agents de sécurité auparavant. Et maintenant, on leur impose aussi, la préfecture leur impose un service de sécurité privé. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de ce genre de demandes.
Est-ce que vous avez du mal à recruter, justement, ou pas du tout?
Aujourd'hui, non, on n'a pas de mal à recruter, puisque c'est un secteur, de toute façon, qui recrute. Puis avec l'euro, on a eu beaucoup d'agents de sécurité qui se sont formés, qui ont obtenu leur carte professionnelle. Donc aujourd'hui, non. Je sais que moi, pour ma part, quand on met une annonce pour rechercher un agent de sécurité, on a vraiment beaucoup de demandes.
Ma dernière question, ce sera pour les gens qui vous écoutent. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner, notamment par exemple à des femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui n'osent pas?
Moi, je leur dis, il faut y aller. Il faut y aller. L'entrepreneuriat, c'est un choix. C'est une envie. Et comme je le dis, on ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat sans savoir ce qu'on va faire. Il faut connaître le domaine dans lequel on se lance. Ça, c'est obligatoire. Parce que sinon, ça ne peut pas marcher. Il faut avoir les compétences requises aussi. Il faut être patient aussi. Ça, c'est une qualité indispensable pour un chef d'entreprise. Il faut être entreprenant, enthousiaste. Il y a beaucoup de ces qualités qu'il faut avoir. Après, voilà. Et moi, pour moi, il faut essayer et puis se donner les moyens d'y arriver. Et puis voilà. Et surtout, être positif.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Madame El Youssefi.
Merci à vous.
Et puis, bon courage pour la suite.
Eh bien, merci beaucoup. Merci pour l'invitation.
C'était le portrait du jour avec Iliam El Youssefi, chef d'entreprise de la société Eli Sécurité, réalisé par Estelle Gély. On marque une première pause musicale avec le chanteur rock engagé Arnaud. Il jouera aux abattoirs le vendredi 18 novembre. Arnaud, auteur d'une discographie d'une grande richesse qui couvre les 35 dernières années, il emprunte de nouvelles directions nourries par ses observations de la société. Il déplore par-dessus tout l'embourgeoisement actuel du rock. Collusion de français et d'anglais, la musique d'Arnaud est toujours un appel à l'ouverture d'esprit et à la tolérance. Arnaud, les yeux de ma mère.
Ma mère, elle a quelque chose dangereux, quelque chose d'une allumeuse, quelque chose. Ses mains sur mon corps. chose d'une allumeuse, quelque chose d'une emmerdeuse. Et dans les yeux de ma mère, il y a toujours de lumière. Et dans les yeux de ma mère, il y a toujours de lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours.
C'était Arnaud, les yeux de ma mère, le chanteur rock'n'roll et à texte engagé venu de Belgique. Il jouera le vendredi 18 novembre à la SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu.
Il est midi passé, vous êtes dans l'écho local avec nous jusqu'à 13h. On va parler littérature, parcours de vie et cinéma. Mathieu est allé interviewer Rachel Kahn, actrice, athlète et écrivain. Elle revient sur son parcours et présente son premier livre, Les Grandes et les Petites Choses.
Rachel Kahn, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous avez sorti votre premier roman chez Anne Carrière, Les Grandes et les Petites Choses.
Oui.
Vous êtes métisse gambienne de culture musulmane et franco-polonaise et juive. En plus de la richesse de vos origines, vous êtes donc une personnalité riche dans votre travail et dans la vie de tous les jours. Athlète, écrivain, actrice, maman et chanteuse. Votre vie, c'est un peu une course, j'ai l'impression, non ?
Alors oui, c'est une course dans un sens. Après, j'essaie de vraiment profiter du maximum de temps que la vie m'a offert pour la remplir, et j'essaie vraiment le plus possible d'être alors c'est peut-être une course, mais en tout cas de profiter de chaque moment, de chaque instant. Une seconde, en fait, ça peut être à la fois une course, mais ça peut aussi être un temps long pour faire plein de choses. Donc voilà, j'essaie de l'appréhender, ce temps, de cette manière-là.
Et comment vous en êtes venue à l'écriture?
Alors l'écriture, déjà moi je suis née dans une librairie, mes parents se sont rencontrés dans la librairie de ma maman, donc c'était quelque chose qui faisait partie de l'environnement de ma petite enfance. Ensuite j'ai eu mes études de droit où j'ai beaucoup écrit, voilà, c'était dans le cadre scolaire, mais j'avais cette petite rébellion dans ce que j'écrivais déjà étudiante. Ensuite je suis passée par la politique où j'écrivais aussi pour les autres, jusqu'au point où j'ai eu envie vraiment de m'exprimer, de vraiment trouver mon chemin propre dans les mots.
Et ce premier roman, Les Grandes et les Petites Choses, est un roman autobiographique et l'héroïne se nomme Nina Gary, qui est votre nom de comédienne. Pourquoi avoir choisi ce nom pour vous incarner à travers ce roman ?
Bon, alors il y a le truc assez basique, hein, de dire que finalement dans la vie, puisque c'est mon nom de comédienne, on joue un rôle ou des rôles. Moi, c'est vrai que j'ai toujours rêver d'incarner des rôles soit au théâtre, soit au cinéma, et surtout j'ai toujours rêvé que ma vie soit un film ou un roman. Donc je me dis que c'était un joli clin d'œil d'utiliser ce pseudo que j'avais pris pour jouer. Ensuite, pour la petite histoire, je ne le savais pas en prenant ce nom de Nina Gary, mais Gary évidemment, puisque c'est un clin d'œil à Romain Gary, du film Les Origines Polonaises et tout ça. Et puis en cherchant, j'ai trouvé ce que Nina en fait avait existé, était bien la fille de Jane Seberg. Jane Seberg avait quitté Romain Gary. Elle avait des relations avec le cousin de Malcolm X. Pour la protéger de toutes les attaques dont elle a été victime par la CIA, Romain a reconnu l'enfant. Et elle est attaquée puisqu'on lui disait, oui, voilà, elle couchait avec des noirs et qu'elle allait avoir un enfant métis, noir et tout ça. Elle a nommé cet enfant Nina, qui n'a vécu que 3 jours. Et lorsque le bébé est décédé, elle l'a recouvert d'un cercueil de verre et elle est apparue devant la presse en disant, vous voyez, ma fille est blanche. Et en fait, je me suis dit, je vais garder ce nom-là, Nina Gary, parce que finalement, quand on a la bibliographie de Romain Gary, notamment avec Chien Blanc, toute son histoire, et puis mon histoire en écho, c'est un joli clin d'œil tout ça, finalement, à un pied de nez aux racistes, aux xénophobes, à tous ceux qui continuent de créer cette intolérance si difficile dans notre monde. Voilà.
En parlant de votre histoire, donc vous êtes issu du métissage, vous avez grandi donc dans une famille avec plusieurs cultures, qui est une réelle richesse. Et à travers votre livre, j'ai l'impression que c'est en sortant de ce cocon familial à 18 ans que vous découvrez un peu ce cloisonnement communautaire, ses préjugés, etc.
Exactement, tout à fait. C'est-à-dire que quand on est dans la famille avec des grands-parents ashkénazes, une maman qui a été cachée pendant la guerre, un papa d'Afrique de l'Ouest, avec toutes les cultures ancestrales, animistes, musulmanes, on pense que c'est tout à fait normal puisqu'on est là-dedans, dans ce foyer, rieur, dans l'autodérision, etc. Et puis, lorsqu'on sort, lorsqu'on grandit, lorsqu'on est confronté au monde, lorsqu'on sort du nid, on s'aperçoit qu'en fait, c'était pas du tout une famille normale aux yeux des autres.
Et ça a été délicat, je suppose, ce grand écart. D'ailleurs, ce grand écart que subissent beaucoup de Français. Par la course, vous avez eu un mental, justement, pour affronter ce grand écart et en faire une richesse.
Oui, et surtout le dépasser et me trouver. C'est-à-dire que c'est pas parce que les gens estiment que c'est atypique ou anormal ou quoi ou qu'est-ce. C'est pas parce qu'ils projettent une anomalie que je devais me projeter cette anomalie sur moi-même. Donc par la course et par le corps, il s'agissait de me trouver, de me faire naître presque. Et à travers mes foulées, me construire mon histoire, voilà.
La course, ça peut être pour fuir, ça peut être pour doubler, pour atteindre des buts, par exemple pour doubler des préjugés xénophobes, et ça peut également être un moyen d'atteindre quelque chose d'inatteignable ou que vous convoitez depuis longtemps. Est-ce que c'est le cas pour vous ?
Exactement. En fait, à travers mon histoire, hein, aujourd'hui, je suis une femme avec des enfants, etc. La course a incarné différents moments de ma vie. Effectivement, la fuite, effectivement, le dépassement, et effectivement, atteindre des objectifs. Et en fait, c'est ce qui me plaisait, en fait, de reprendre dans cette narration les différents aspects de ce qu'est courir.
Et dans les grandes lignes, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire, un petit avant-goût de Nina Gary ?
Alors, dans les grandes lignes, pour moi, en fait, je le résumerais, cette histoire, comme une espèce de puzzle au sein de cette famille avec cette culture, mais en fait, ces cultures, mais qui sont finalement toutes ces cultures françaises réunies au sein d'un foyer, entre l'Europe de l'Est et l'Afrique, et comment dans ce foyer on se construit en tant que femme, avec une mutation au niveau des sentiments, une mutation au niveau du corps, et comment on arrive à atteindre ses objectifs et à travers l'amour aussi se trouver.
Le lecteur, à travers Nina Gary, ressent vos doutes, vos questionnements dans les grandes et les petites choses. Est-ce que vous donnez des réponses dans le livre ?
Alors, je crois que l'ensemble du livre, je vais vous dire la vérité, un peu un secret, c'est que j'ai voulu, à travers ce livre, parler vraiment comme Nina Gary parle, c'est-à-dire qu'elle, parfois, on n'était pas d'accord entre l'auteur et la narratrice, qui est cette jeune fille, on n'était pas du tout d'accord. En revanche, entre les lignes, c'est une réponse aux politiques. C'est-à-dire que le livre se passe en 95-96, juste après les attentats de Saint-Michel. Et comment cette jeune fille qui a 18 ans raconte déjà ces graines d'intolérance qui sont déjà là en 95-96, avec le regard d'aujourd'hui après tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc oui, j'ai voulu apporter une certaine forme de réponse, et Nina Gary incarne une Française avec toute l'histoire de France, de Marie-Antoinette, en passant par la Shoah, l'esclavage, la colonisation, la décolonisation et la croyance en la France et la République.
Et les grandes et les petites choses, pourquoi ce titre ?
Parce que, alors ça c'est vraiment un clin d'œil à mon papa. C'est très quantique comme formule, et en fait il a toujours ce décalage là. Dans la vie, il y a les grandes, il y a les petites choses, il y a l'esclavage, la Shoah, mais il y a aussi nos amours, nos petits bobos, nos petites joies. Alors, qu'est-ce qui est le plus grand, qu'est-ce qui est le plus petit entre l'infime et le gigantesque, entre nos atomes, nos cellules et l'histoire de l'humanité. Moi, j'aime bien que Nina Gary navigue entre le grand et le petit, parce qu'en fait, pour moi, ce titre-là symbolise toute notre objectivité et notre subjectivité. Et Nina Gary, si elle court aussi, c'est parce qu'elle n'a plus envie d'être jugée par les gens, par les hommes, par les femmes, parce qu'elle a envie d'être jugée à un moment donné par le chronomètre.
Également,
quelque chose d'objectif.
Et également, Nina Gary arrive à créer quelque chose de beau dans des moments difficiles, un peu comme une fleur qui pourrait pousser sur du bitume.
Merci beaucoup, mais c'est ces ressorts-là, en fait, qu'on trouve en Afrique et qu'on trouve aussi dans l'humour juif ashkénaze. C'est-à-dire toujours trouver en soi le dernier ressort, la petite chose qui va faire que finalement, bah, c'est quand même joli. Toujours trouver en fait la vie et le sourire, même lorsque il y a des situations dramatiques. Moi, c'est dans ma vie, même personnelle, c'est toujours ce que j'ai tenté de faire. Et c'est aussi une révérence à mes ancêtres, hein, qu'ils soient d'Afrique ou d'Europe de l'Est.
C'est créer ce lien, vraiment le faire perdurer.
Exactement, exactement. Et c'est en ça d'ailleurs que cette conjugaison, parce que c'est finalement l'histoire de l'humanité, hein, que je raconte, hein, ni plus ni moins, cette humanité-là, on est arrivé là aussi parce que en nous, on a toujours une petite lumière qui fait que la vie est belle.
Merci beaucoup Rachel Kahn. Avant de parler plus en détail cette fois-ci de votre carrière d'actrice, je vous propose qu'on fasse une pause musicale ensemble avec une de vos sélections. Pouvez-vous me donner deux titres de n'importe quel artiste qu'on va écouter tout de suite?
D'accord. Alors, je dirais Sol Makossa, parce que c'est mon papa spirituel, Manif Bango. Et Brassens, La Canne de Jeanne. Je ne sais pas pourquoi. Ah si, parce que je m'appelle Rachel Kahn, peut-être.
Thank you. la Macosa, 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 Bata son sol. Yonce, Yonce, Bata Yonce, Macosa. Banaro carona y lewa, se mala de Macosa.
La canne de Jeanne est morte au gui, l'an œuf elle avait fait la veille, merveille, un œuf. La canne de Jeanne est morte d'avoir fait, du moins on le présume, un rhume mauvais. La canne de Jeanne est morte sur son œuf et dans son beau costume de plume tout neuf. La canne de Jeanne, ne laissant pas de veuf, c'est nous autres qui hume les plumes et l'œuf. Sans doute garderont longtemps le souvenir de la canne de Jeanne morbleu.
Georges Brassens, la canne de Jeanne, et juste avant vous avez entendu Sol Macossa du grand Manu Dibango. C'est la sélection de notre invitée de cette semaine, Rachel Kahn. Comédienne et écrivain, elle est avec nous pour nous raconter sa carrière et nous présenter son premier roman, Les Grandes et les Petites Choses. C'est donc un roman autobiographique, sauf que vous vous appelez pas Rachel Kahn dans ce livre. Vous vous appelez Nina Gary, votre nom d'actrice. On va d'ailleurs revenir dessus. J'aimerais en savoir un peu plus sur votre carrière de comédienne.
Oui, absolument. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à la sortie du livre, juste là, c'est tout nouveau, puisque Nina Gary est devenue un personnage de mon roman, maintenant, j'ai décidé là cette année de ne prendre plus que Rachel Kahn en nom d'actrice. J'appréhende ce métier-là d'une manière assez singulière. Déjà, je choisis vraiment les rôles que j'incarne. Il faut toujours qu'il y ait un fond. Comment dire, toujours qui questionne la société ou qui pointe des choses que j'ai envie de dire politiques. C'est vrai que le rôle de Lampedusa à Lampedusa a été un rôle très fort, puisque j'avais le rôle d'une maman en fait qui est sur les côtes libyennes avec ses deux enfants et qui veut atteindre Lampedusa avec des scènes extrêmement violentes dans l'eau. Donc j'ai vécu dans ma chair l'histoire des migrants d'aujourd'hui. Il faut savoir qu'on était vraiment en conditions réelles, donc passer 5 minutes dans l'eau, en pleine nuit avec les vagues, la panique, c'est absolument intenable, effroyable. Et quand on a des enfants avec soi, moi j'ai vécu les choses d'une manière, c'était assez difficile et tellement fort que ça a changé ma vie, ce rôle. Donc voilà, ensuite là maintenant je suis sur un tournage, le tournage des grands, saison 2, où je suis avec des ados. Il y a plein de questions sociales, plein de questions sur notre jeunesse qui, qui s'y posent. Et j'adore ça. En plus, c'est assez marrant parce que je me retrouve en tournage à Tours, à l'université de droit où j'étais étudiante, avec des ados. Donc, c'est une série qui a eu des prix cette année à La Rochelle en saison 1, qui s'appelle Les Grands, une série de Vianney Le Basque, qui est un formidable réalisateur. Et ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'on aborde toutes les problématiques, enfin les problématiques majeures de nos jeunes. Et moi, je joue le rôle d'une CPE, assez relou. Hein. Et voilà, et ces rôles-là, moi, me permettent de garder une prise avec le réel, avec ce qui se passe. Et les scénarios sont un formidable indicateur pour ça, en fait. Lorsqu'ils sont évidemment bien écrits et bien travaillés. Et moi, j'adore ça parce que ça me permet de rester éveillée.
Et on vous retrouve également dans un film qui sort le 9 novembre avec Michael Cohen et Nicolas Bedos en acteur principal, L'Invitation.
Absolument. Alors ça, c'est un film moi qui m'a intéressée parce que déjà, il est très très bien écrit. C'est une adaptation d'une bande dessinée du même nom, L'Invitation, qui a été aussi travaillée avec des personnalités très compétentes, notamment pour creuser les personnages qui sont Léna et Dan Cohen, et qui parlent d'amitié. Qu'est-ce que l'amitié aujourd'hui dans nos mondes où alors tout le monde est sur les réseaux sociaux, etc. Il n'y a pas de souci, il y a des avantages d'ailleurs à utiliser les réseaux sociaux, mais aussi de gros inconvénients qui sont sur l'individualisation et la solitude.
Vous aimez danser, j'ai l'impression, parce que dans la bande-annonce de L'Invitation, on vous voit danser. Le passage, on vous voit danser. Donc je pense encore une autre facette de vous.
J'étais danseuse classique. Déjà, je voulais être vraiment une grande danseuse classique. D'ailleurs, c'est le premier chapitre de mon roman. Et puis après, j'ai dansé hip-hop, contemporain. J'adore danser, bien sûr. Moi, je suis une danseuse de toute façon.
Alors, merci beaucoup Rachel Kahn encore. Je vous souhaite une très belle carrière en tant qu'actrice. J'ai hâte de lire votre prochain roman également.
Bah écoutez, avec un grand plaisir. Je vais essayer vraiment de m'amuser autant pour pouvoir transmettre des choses qui sont peut-être pas forcément mises en lumière tout le temps. Merci Mathieu.
Merci encore.
C'était le reportage de la semaine avec la comédienne et écrivain Rachel Kahn, interviewée par Mathieu. Je rappelle qu'elle a sorti son premier roman autobiographique, Les Grandes et les Petites Choses, aux éditions Anne Carrière.
On marque une nouvelle pause musicale. Allez, un peu de jazz hip-hop, ça va bien en mangeant. On écoute un artiste qui connaît bien notre territoire. Il avait enflammé le Théâtre Antique de Vienne le 11 juillet dernier lors du Jazz à Vienne. Gregory Porter, Liquid Spirit.
Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long. The water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank.
about the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water hidden banks of hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down, take a drink and fill your water tank. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. Liquid spirit.
C'était Grégory Porter avec Liquid Spirit. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur le 97.1, vous êtes dans l'écho local, une émission consacrée à l'actu culturel de notre territoire en direct de Couleur FM tous les jeudis de midi à 13h, rediffusée le vendredi, samedi et le dimanche. C'est l'heure de la deuxième partie de notre émission. On part dans le monde de l'art visuel, place à la rubrique cinéma de Véronique Boulieu.
Merci Estelle. 5 nouveautés au cinéma Le Kinépolis à Bourgoin-Jallieu, notre partenaire. Tu ne tueras point, un film de guerre américain de Mel Gibson avec Andrew Garfield, Vince Vaughn, Teresa Palmer et Sam Worthington. Le client, un drame franco-iranien d'Asghar Farhadi avec Shabab Hosseini et Taraneh Ali Dosti. Maman a tort, une comédie dramatique franco-belge de Marc Fitoussi avec Jeanne Gestin, Émilie Dequesne et Nelly Antignac. Ma famille t'adore déjà, une comédie française de Jérôme Commandeur avec Arthur Dupont, Déborah François, Thierry Lhermitte et Marie-Anne Chazelle. Et enfin Inferno, un thriller américain de Ron Howard avec Tom Hanks, Felicity Jones, Irfan Khan et Ben Foster. Mon coup de cœur ira cette semaine pour le film d'animation « Ma vie de courgette » de Claude Barras. L'histoire, Courgette n'a rien d'un légume, mais c'est un vaillant petit garçon. Il croit qu'il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c'est sans compter sur les rencontres qu'il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. En partenariat avec le cinéma Kinépolis, gagnez vos places pour la séance de votre choix. Pour cela, c'est tout simple. Vous laissez vos coordonnées au 04 74 27 80 80. Pour plus d'informations sur les séances, www.kinépolis.fr. Et on retrouve Estelle et Mathieu pour la suite de l'émission L'écho local.
Merci Véronique, la semaine dernière c'était Halloween. Nos petits reporters avec qui nous intervenons pour les formats au métier de la radio dans le cadre des TAP, temps d'activité périscolaire, on profitait de cette journée pour aller rencontrer Nicolas Vora. Il exerce le curieux métier de chasseur de fantômes.
Bonjour.
Bonjour.
Comment vous appelez-vous ?
Moi, c'est Nicolas. Et toi ?
Moi, je m'appelle Maïssa.
Moi, je m'appelle Imen.
Enchantée, Imen et Maïssa.
Est-ce que vous croyez aux fantômes ?
Oui, j'y crois. Et toi, t'y crois ?
Oui. Quelle est votre plus grosse peur ?
Ma plus grosse peur, c'était quand j'étais petit. Je devais avoir 5 ans.
Aimez-vous votre métier ?
J'aime bien, oui. C'est pas vraiment mon métier, j'espère que je pourrai y arriver, mais pour le moment, c'est plus une passion, mais oui, c'est quelque chose qui me plaît.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Parce que j'ai vécu un phénomène qui m'a marqué quand j'étais petit, et je me suis toujours posé la question, et du coup, ben voilà, je fais ça pour répondre à mes questions et aider les gens quand je le peux.
C'est quoi un phénomène ?
un phénomène, c'est quelque chose qui peut arriver. C'est, comment te dire ça? Il y a des personnes qui, imaginons, vont peut-être voir un fantôme, et ben c'est un phénomène. Mais on appelle ça un phénomène paranormal. Un phénomène, c'est une action qui se passe. C'est quelque chose que tu peux voir, quelque chose que tu peux toucher.
Mais c'est quoi ce phénomène?
C'est quand j'étais petit, il y a quelque chose qui m'a réveillé, qui était au pied de mon lit. Et comment te dire, de manière à ce que tu prennes pas peur.
Mais moi, j'ai pas peur.
Ah bah tant mieux. Bah si tu veux, il y a quelque chose qui m'a réveillé quand j'étais petit, que j'ai senti à mes pieds pendant que j'étais en train de dormir. Donc cette chose-là m'a réveillé. Et je l'ai senti remonter jusqu'à ma nuque. Et en fait, j'ai entendu, si tu veux, une sorte de grand grognement qui m'a fait très peur. Et donc, j'avais 5 ans. J'ai couru jusqu'à la salle de bain. J'ai dit à ma mère que j'avais très mal au dos. Elle a enlevé mon t-shirt et j'avais des griffures en dessous de mon t-shirt. Mais mon t-shirt n'avait rien.
Êtes-vous déjà allé dans des maisons hantées?
J'y suis déjà allé, oui.
Combien de fois à peu près?
Bah à chaque fois, en fait si tu veux, à chaque fois que je vais enquêter dans un endroit, c'est pas forcément une maison. Les gens pensent qu'elle est hantée, après ça c'est moi qui le vois oui ou non. Mais pour le moment, j'ai plus fait des appartements et des maisons que des châteaux ou des monuments plus importants.
Comment chassez-vous les fantômes?
Je les chasse pas. C'est les appareils que j'utilise, c'est plus pour justement détecter s'ils sont bien là ou non. Mais moi, je chasse pas les fantômes. C'est pas mon but premier.
Comment on les détecte?
Tu peux les détecter de plusieurs manières. T'as des personnes qui ont plus ou moins de facilité avec certaines facultés. Tu as des personnes qui sont médiums. Un médium ou une médium, c'est une personne qui va réussir à s'imprégner en gros d'un lieu et qui va arriver à expliquer ce qu'il ressent. Donc des choses qui se sont passées, des émotions qui sont restées. Après, moi, j'ai pas cette faculté-là, malheureusement. Moi, j'ai plus des appareils. C'est des appareils que tu peux trouver n'importe où. J'ai un caméscope qui est capable de filmer la nuit. J'ai le prochain matériel que je vais avoir, ce sera une caméra thermique. Ça me permettra de détecter les zones de chaleur ou les zones de froid. J'ai aussi un appareil qui s'appelle un pod. Et en fait, si tu veux, c'est une sorte de gros rond avec une antenne. Et cette antenne-là, elle capte les énergies électromagnétiques. Parce qu'il est dit que dans le paranormal, une entité est composée d'électromagnétisme. Donc c'est ça que j'utilise pour pouvoir détecter en gros leur présence.
Est-ce que le métier de chasseur de fantômes est-il reconnu?
Non, il n'est pas reconnu, malheureusement. En Amérique, c'est pas non plus un métier reconnu, mais ils ont beaucoup plus de facilité. Je vais te prendre un exemple. Dans les universités et dans les lycées, les jeunes ont le droit de choisir une filière qui s'appelle la démonologie. Et la démonologie, c'est en fait, tu vas apprendre tout ce qui est par rapport aux démons. Donc si tu veux savoir ce qu'est un démon, c'est en fonction des religions. Ça, je te laisserai regarder. Je pourrais pas m'étendre sur ce sujet-là. Mais dans certains pays, justement, c'est le paranormal est beaucoup plus ouvert qu'en France. Mais en France, non, c'est pas un métier reconnu.
Quelle est votre première peur?
Ma première peur, c'est-à-dire quand j'ai commencé mes enquêtes.
Oui.
J'ai filmé quelque chose qui m'a pas vraiment fait peur, mais qui m'a beaucoup surpris. J'ai posé ma caméra dans un couloir. Je suis parti du couloir. Et en fait, si tu veux, ma caméra filmait deux pièces. Et dans une de ces deux pièces, donc je suis parti, j'étais dans le salon, j'ai fait une séance de PVE. PVE, ça veut dire phénomène de voix électronique. Donc j'étais dans le salon et en fait, ma caméra a filmé deux yeux qui se sont ouverts, qui sont allés vers ma caméra et qui ont disparu.
Vous avez un assistant avec vous ou vous êtes tout seul?
Des fois, je suis tout seul et des fois, il y a mon meilleur ami qui vient avec moi.
Bonjour, je m'appelle Haché, je suis avec Imen et Maïssa, et vous habitez où en fait?
Moi je suis de la région PACA dans le 06 et plus précisément je suis à Nice.
Vous avez déjà dû aller plus loin que votre région, prendre par exemple des heures de route?
Bah j'aimerais bien, malheureusement il n'y a pas beaucoup de monde qui m'appelle parce que comme j'ai dit à ta camarade tout à l'heure, c'est pas un métier qui est reconnu et malheureusement la passion plutôt que j'ai, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour se faire de l'argent. Moi, c'est C'est pas mon cas, donc, mais c'est pas reconnu aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des charlatans.
Bonjour, je m'appelle Caliste. Est-ce que vous avez déjà vu un fantôme pour de vrai?
Comme je l'ai expliqué, non. Non, parce que moi, le phénomène qui m'est arrivé quand j'étais jeune, malheureusement, je l'ai pas vu, je l'ai plus senti. Et comme j'ai dit à ton ami tout à l'heure, en fait, si tu veux, j'en ai pas vu en vrai, mais j'ai vu ce que ma caméra a filmé. Après, je sais pas si c'est un fantôme ou une autre manifestation, mais un fantôme en vrai, de mes yeux, j'en ai jamais vu.
Merci beaucoup, au revoir.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Bah, pas de souci, j'espère que ça vous a plu.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
C'était les petits reporters de l'école de la Grive qui sont allés découvrir le curieux métier de chasseur de fantômes en interviewant Nicolas Vora. Vous êtes en direct de l'écho local sur Couleur FM. Pour terminer ce menu radiophonique, Mathieu nous emmène en balade sonore autour du monde. Alors Mathieu, où va-t-on aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je vous emmène à deux endroits, enfin, entre le Cameroun et Cuba. On va découvrir ensemble le nouvel album du génie de la basse camerounaise et également excellent chanteur Richard Bona. Il a mis en valeur le patrimoine africain présent au cœur des musiques cubaines dans Héritage, disque de la semaine dans l'écho local.
Dans ce monde, les disques vinyles sont fabriqués comme des crêpes.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est pour moi le plus beau de la semaine.
Le disque
de la semaine.
Le bassiste camerounais et son groupe Mandekan Cubano a sorti cet été l'album Héritage sur Quest Records, le label de Quincy Jones. 3 ans après Bonafield, Richard Bona a continué son exploration universelle des musiques du monde avec Héritage. Un voyage au cœur de la culture afro-cubaine. Pour ce nouveau projet, le surdoué de Douala s'est inspiré du patrimoine commun de l'histoire des esclaves de langue Mandekan d'Afrique de l'Ouest débarqués à Cuba et des immigrants venus d'Espagne. Ils ont apporté avec eux leur musique et leurs traditions. Entre musique traditionnelle, jazz afro-cubain, pulsation des cabildos, groove tori des balades mélancoliques, Richard Bona prouve encore sa maîtrise absolue dans l'art rythmique de la basse, des arrangements et des mélodies. Dans ce disque, Héritage, le multi-instrumentiste et chanteur Richard Bona s'exprime aussi aux percussions, au clavier ou à la guitare. Il est accompagné depuis 4 ans par le All Stars Mandekan Cubano, une sorte de super groupe réunissant le pianiste cubain Osmani Parades, le percussionniste vénézuélien Luisito Quintero, le tromboniste mexicain Rey Alejandre et le trompettiste cubain Denis Hernandez. Sans oublier l'autre percussionniste vénézuélien Roberto Quintero. Comme il l'avait fait avec le blues, c'est encore une aventure musicale émouvante et éducative que nous propose l'enfant prodige de Douala. Il refait le voyage des anciens esclaves d'Afrique de l'Ouest débarqués à Cuba. Il tisse donc pour cela un lien avec les racines africaines, notamment Yoruba du Nigeria, qui ont influencé la musique cubaine. Dans ce nouvel album, Héritage, Richard Bona rend hommage à l'histoire de ses musiques en mettant en avant leur richesse. On se croirait vraiment à Cuba, les rythmes, le swing et la plupart des mélodies rappellent l'ambiance des social clubs. Ces clubs créés par les descendants d'esclaves africains qui furent les premières pierres apportées à l'édifice dans le but de transmettre la musique, la danse et les rituels. Pour le mettre en avant, il chante en Douala, frémissant et envoûtant. Il permet à des grands classiques de l'île de renouer avec le continent mère, comme sur le morceau entre guaracha sautillante, cha-cha-cha langoureux et balade classieuse, Bilongo. Ce disque, en plus d'être un voyage musical, c'est une véritable leçon d'histoire. Cet héritage historique se traduit évidemment par les instruments qui constituent la musique cubaine et afro-cubaine. On retrouve le piano, la trompette et le violon, qui viennent d'Europe. Les maracas, ce n'est pas africain, ça vient des Indiens. Et les batas, les congas, c'est l'Afrique. C'est ça qui fait l'essence de la musique afro-cubaine. Dans la musique cubaine, le boléro vient de l'Europe, la rumba vient de l'Afrique et la bachata est indienne. En embrassant la différence, les musiciens de Cuba ont mélangé ces sonorités et créé une musique unique. C'est ce que Richard Bona veut démontrer avec Héritage. Encore une réussite de la part du bassiste et globetrotteur qui met en valeur les cultures métisses qui font nos sociétés. Il travaille déjà sur 2 albums consacrés aux musiques flamenco puis gnawa. On se retrouve après un extrait de ce magnifique album Héritage, Richard Bona, Joko Joko. Richard Bona, Joko Joko, le génie de la basse camerounais a mis en valeur le lien profond entre l'Afrique et Cuba dans ce dernier album Héritage sorti cet été.
Cinéma, concerts, ateliers, vernissages, il se passe beaucoup de choses dans le coin. On vous a sélectionné quelques petites sorties à ne pas manquer, place à l'agenda.
Musique à la SMAC Les Abattoirs, comme d'habitude une flopée de concerts et d'événements culturels. Jeudi 17 novembre à partir de 20h30, une soirée dédiée au rock français avec des groupes locaux, Mayor venu de Grenoble et les Lyonnais L'Ombre du 8. Le vendredi 18 novembre, toujours aux abattoirs, dès 20h30, une soirée chanson française engagée avec 2 incontournables représentants de cette scène, le Belge Arnaud et le groupe canadien Mel, qui présentera son 6e album. Vendredi 18, toujours, de 14h30 à 16h30, à la Maison du Territoire de la Porte des Alpes, au 18 avenue Frédéric Dard à Bourgoin-Jallieu, il y aura une conférence dans le cadre de l'Université Tout Âge, sur l'art égyptien au-delà d'une apparente uniformité. Une immersion chronologique dans les aspects techniques et stylistiques de cette civilisation antique. Une conférence soutenue par Thierry Barcelona Balanco, enseignant à l'Université Lyon 2.
Le Théâtre du Velin de Villefontaine vous propose de découvrir l'univers pop de Lise Chéral et son second album, Les Survivantes, un rendez-vous à ne pas manquer le mardi 15 novembre à 20h30. Si l'art contemporain vous passionne, rendez-vous au musée de Bourgoin-Jallieu pour Avec et sans stress, une exposition à découvrir jusqu'au 4 décembre.
L'écho local touche à sa fin, on se retrouve jeudi à midi pour un nouvel opus. Retrouvez nos émissions également sur le site internet de Couleur FM, ou en rediffusion le vendredi à 19h, le samedi à 7h du matin et le dimanche à midi.
Une émission présentée par Mathieu Giraud
et Estelle Gilly.
On termine avec la citation du jour, présentée par Véronique Boulieu.
Merci pour votre écoute, très bonne semaine à vous.
Merci Estelle, merci Mathieu. Ma citation du jour sera de Martin Luther King, à l'occasion de son discours du 31 mars 1968. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. À la semaine prochaine.